Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. Édouard Rosset.
Bonjour, bienvenue dans Éclairage. Nous allons parler aujourd'hui du secret, plus précisément du secret professionnel. Chacun d'entre nous est concerné au quotidien, vie privée, rapport au travail, à la justice, à la médecine, voire à la religion. Il ne se passe pas un jour sans que nous ne souhaitions qu'une part de nous-mêmes reste au secret, vive en paix, reste simplement notre propriété. Il en va de même pour le médecin face à son patient, pour l'avocat face à son client, pour le prêtre face à son pénitent. Alors la logique aurait voulu que j'invite autour de cette table un représentant de chacune de ces professions, de ces sacerdoce. Et puis finalement, j'ai trouvé l'homme permettant de faire la synthèse du sujet. Auteur du livre « Le secret nécessaire » publié chez Desclés de Brouwer, cet homme est académicien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, diplômé de l'Institut de criminologie de Paris. Il a été successivement avocat au barreau de Versailles. J'ai nommé Monsieur André Damien. André Damien, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de Canal Académie. Alors, prêtre, avocat, médecin, je dirais que c'est le triptyque parfait hein, pour expliquer le secret professionnel. Dans la préface de votre ouvrage, je le disais, publié il y a quelques années chez Desclés de Brouwer, préface qu'il signe, Jacques Durandeau écrit que les origines du secret professionnel sont bâtardes, mais que ce secret a atteint aujourd'hui ses lettres de noblesse.
Alors, je pense que c'est vrai. D'abord, le secret professionnel est certainement aussi ancien que l'humanité. Dès que l'homme de Néandertal a commencé à pouvoir s'exprimer dans des grognements peu articulés, il est évident que dans la mesure où il pouvait être compris par d'autres, il a automatiquement voulu avoir des secrets. Et en même temps, les institutions, c'est-à-dire la famille, la horde, la fratrie, la tribu, l'État, ont eu envie de connaître ces secrets qu'il désirait garder par-devers lui. Donc toute l'ambiguïté du secret est issue de la civilisation dès qu'elle a commencé à exister. Il est donc aussi ancien que le feu, que les premiers tranchoirs fabriqués par des clivages de pierre par l'homme primitif. Et ce secret a commencé, a pris ses lettres de noblesse, comme toute chose en Grèce, puisque la Grèce est la fabricante d'archétypes sur lesquels nous vivons encore, et c'est elle qui a inventé le secret et qui l'a inventé médical. Elle a inventé médical pour une raison très simple, c'est qu'elle ne pouvait pas être autre chose, étant donné qu'il n'y avait pas de prêtre confessant ou recevant les confidences dans la religion des Grecs, et qu'il n'y avait pas non plus d'avocat, puisque les Grecs étaient des citoyens libres, on ne faisait donc pas appel à un gagé pour se défendre en justice. Chaque homme venait se défendre et on se contentait de faire fabriquer par des spécialistes des petits plaidoyers qu'on lisait, puisque les Grecs savaient lire dès l'origine, dès longtemps. Et Lysias est un des grands avocats, mais non, rhéteurs, qui écrivait, un logographe, voilà le mot exact, et tout le monde a lu Lysias et tout le monde a lu l'admirable Discours pour l'Invalide, qui est un chef-d'œuvre d'humour.
Donc, origine médicale, nous y reviendrons d'ailleurs. Ensuite, nous verrons que le prêtre sera médecin des âmes. Il y aura ensuite l'avocat, médecin dans un autre domaine. En tout cas, André Damien, respect du secret individuel, du secret professionnel, c'est vraiment le respect des droits, ou si ce n'est du droit de l'homme.
Alors, le secret médical, j'y viens tout de suite, car c'est à mon avis le plus important, puisqu'il est l'origine de tout, est un secret qui ne porte pas tellement sur la maladie qu'on sait mal définir à l'époque, ni sur les remèdes, mais sur ce qu'on voit chez le malade. Le médecin est une des rares personnes qui peut faire une intrusion chez quelqu'un. Et cette intrusion peut être la source de révélations nombreuses. Et alors, c'était un collège de médecins placé sous le patronage du divin Asclépios, qu'on appelait en latin Esculape, et l'un des plus célèbres médecins qui a eu une existence historique, c'est Hippocrate, formule son obligation, qui est devenue le fameux serment d'Hippocrate que prêtent les médecins, « Les choses que dans l'exercice, ou même hors de l'exercice de mon art, je pourrais voir ou entendre sur l'existence des hommes et qui ne doivent pas être divulguées au dehors, je les tairai. Et donc, voilà le premier secret qui existe, qui va beaucoup plus loin que, et d'ailleurs, c'est un peu ambigu, vous le verrez pourquoi, qui va beaucoup plus loin que la maladie. C'est le secret de ce que je vois quand je me présente chez un malade, de savoir si s'il est riche, s'il est pauvre, si c'est sale, si c'est propre, s'il s'entend avec sa femme. Tout ça, je suis pénétré comme le diable boiteux en tirant le toit chez des gens, et donc je garde ces secrets pour moi.
Le secret médical qui est d'ailleurs le seul, je crois, à figurer dans le code pénal.
Exactement, c'est le seul qui soit mentionné par l'ancien article 378, devenu aujourd'hui 226-13, si ma mémoire est fidèle. Et c'est le vrai secret, c'est le secret d'origine qui existe encore. Alors, chose curieuse, c'est celui qui est peut-être le plus battu en brèche aujourd'hui.
Pourquoi ?
Eh bien parce que la société, pour se défendre, a inventé les maladies à déclaration. À déclaration facultative ou obligatoire. Et vous avez 50 maladies au moins qui sont aujourd'hui sujettes à déclaration, parmi lesquelles la grippe, les oreillons...
Les maladies vénériennes, l'alcoolisme aussi en fait.
Les maladies vénériennes, si le malade refuse de se soigner, s'il accepte de se soigner, le médecin est tenu au secret. Le sida, on est toujours tenu au secret. Mais en revanche, des maladies comme la scarlatine, la rubéole, sont soumises à déclaration obligatoire. Ce qui fait que le médecin passe son temps, ou devrait passer son temps, à déclarer des choses d'une banalité extraordinaire. Et donc, je peux dire que le secret médical est rongé. Il est rongé par ces espèces de pratiques sécuritaires, sécurité sociale, tout ce que vous voyez, n'est-ce pas, fièvre aviaire, etc. Mais dans les grands cas, il demeure, c'est-à-dire que le médecin peut nier. Vous avez eu dans les histoires de la résistance des médecins qui étant amenés à soigner des malades, ont refusé de dire où ils les avaient trouvés, etc., etc. Ils ont d'ailleurs généralement payé de leur vie cet héroïsme, mais c'est un secret qui a ses martyrs. Alors, c'est un secret qui aujourd'hui fond un peu parce que la société est devenue tellement sécuritaire qu'elle a le besoin de se défendre et qu'on ne voit pas très bien comment on peut garder une maladie pour soi sans la communiquer à tout le monde et nécessiter les moyens de guérison. Le grand cas, c'est la peste de Marseille qui a été causée par un bateau qui avait ramené la peste d'Extrême-Orient et qui l'a collée à tout Marseille avec 50 000 morts.
Donc, André Damien, la notion de secret professionnel s'émousse petit à petit et s'émousse de plus en plus.
Oui.
C'est un danger.
Elle s'émousse devant des nécessités sociales et de plus en plus, on dit, mais ce secret est une sorte de coquetterie de vieille civilisation. L'État, la communauté de gens a besoin d'une satisfaction immédiate, a besoin d'être garantie contre des risques. Donc le secret médical, le premier tous, s'ébousse. Alors les autres secrets, vous avez le secret des avocats et vous savez le secret de la confession. Le secret de la confession est assez tardif puisqu'il remonte à l'apparition du prêtre chrétien qui, par l'aveu, ce qu'on appelle la confession auriculaire, c'est-à-dire de bouche à oreille, entend des péchés en vue de leur absolution puisque... Dans les sacrements, vous avez un sacrement qui permet de rendre, de laver des péchés. Vous l'avez déjà dans l'ancien Israël, vous l'avez dans les actes de Jésus qui va tes péchés te sont remis, mais le prêtre chrétien, ordonné régulièrement, ayant la juridiction nécessaire, peut absoudre les péchés.
Nous reviendrons à ces différentes notions, si vous le voulez bien, André Damien. Tout d'abord, à qui doit-on objectivement le maintien et je dirais même l'entretien du secret professionnel au fil des siècles ? Aux prêtres, justement, c'est-à-dire au sein de l'Église, aux avocats, aux médecins ?
Aux médecins, n'est-ce pas ? Le secret a tenu au Moyen-Âge, et c'est extrêmement difficile qu'il ait tenu dans une société qui était malgré tout une société un peu oppressante sur le plan intellectuel et notamment avec unité de pensée, unité de religion. Il suffit de songer à Louis XIV. Louis XIV a bousculé à la fois les gallicans, les quiétistes, les jansénistes, les protestants d'une manière assez autoritaire. Donc, ce que pesait le secret à ses yeux, c'était quand même dans une certaine mesure, un dictateur éclairé, certes, mais dictateur. Et le secret professionnel, aussi bien les médecins que les autres secrets, se sont émoussés au cours du XVIIIe siècle, Et sous la Révolution, puisque là alors le bien-penser était descendu au niveau du politicien moyen, ce qui fait donc qu'on se moquait bien de secret.
La notion de secret est abolie par la Révolution ?
Oui, pratiquement abolie, puisque ces tribunaux spéciaux, notamment dont Fouquier-Tinville et le ministère public, n'ont rien à faire du secret, parce que ça serait une opposition, c'est un complot. C'est un complot, donc il n'y a pas de secret qui tienne. Mais Bonaparte, quand il fait les codes, se réfère au secret. Le code pénal de 1810, dans son article 378, reprend le secret des médecins, et il est assez respecté. Et puis on va l'étendre à d'autres catégories, parce que finalement, l'Empire... Le premier consulat, d'abord, et l'Empire sont une époque où un certain nombre de libertés reparaissent, et reparaissent avec un jour nouveau. Ce n'est pas dans le même esprit qu'autrefois. C'est dans un esprit particulier qu'il y a une société qui naît, notamment la société bourgeoise et à la société ex-parlementaire, c'est-à-dire de ces grands bourgeois qui étaient les parlementaires de France, et qui s'étaient construit une déontologie qu'on applique à la France tout entière. Donc nous avons la naissance de ce que j'appellerais les grandes traditions bourgeoises, c'est-à-dire que le secret sort du domaine religieux pour arriver dans le domaine de la tradition bourgeoise, avec notamment, pour les avocats et les médecins, le désintéressement.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire le fait qu'on ne prend pas d'honoraires à ceux qui ne peuvent pas payer. La sécurité sociale n'existe pas. L'aide judiciaire n'existe pas, et l'avocat ou le médecin sont censés faire face eux-mêmes, avec leur fortune, à ces besoins que les gens ne sauraient pas satisfaire. Il y a une espèce de déontologie de la bourgeoisie du 19e qui n'est pas aussi âpre qu'on a bien voulu la décrire, mais qui a sa noblesse.
Alors, le bénéfice du secret, effectivement, reparaît début 19e avec le code pénal 1810.
Oui.
On dit que le texte est plus ou moins mal ficelé,
alors,
manque de clarté.
Le texte n'est pas bon. D'ailleurs, le code civil est admirable et le code pénal n'est pas bon. C'est un texte qui parle du dépôt et qui se réfère au contrat de dépôt. Or, il est évident que le secret n'est pas confié sous la forme d'un dépôt à la manière dont on confie un objet à vendre, un diamant ou une chose comme ça. Donc l'image à laquelle on se réfère est mauvaise. Et il faudra attendre le grand Émile Garçon, le grand professeur de droit pénal, qui va définir dans son code pénal annoté, qui est l'ouvrage le plus fondamental à mon avis qu'on ait créé sous le 19e siècle, la définition de l'article 378 et du secret. Il est de l'intérêt de l'ordre public et de la société que le malade trouve un médecin, que le pécheur trouve un prêtre, que le coupable ou le suspect trouve un avocat en qui il puisse avoir toute confiance, puisque les paroles qu'ils lui confieront seront confirmées par le secret. Donc on sort du dépôt, on pourra arriver à l'ordre public, c'est-à-dire c'est pas dans l'intérêt de celui qui se confie qu'on institue ce secret, c'est dans l'intérêt de la société tout entière. Au-delà de l'individu, qui est peut-être intéressant, qui est contagieux, qui a attrapé une maladie par des choses répréhensibles aujourd'hui, et dans une société très 19e siècle, donc très excitée sur les matières sexuelles, on a réussi à trouver une notion supérieure, mais qui est une notion purement doctrinale, elle n'est pas dans le code. C'est Garçon qui l'a imprimé d'une manière définitive. Garçon était le père de la célèbre avocat Maurice Garçon, qui fut membre de l'Académie française, mais il avait une profondeur beaucoup plus grande. C'était un universitaire de grand talent, et ça a été le père du système criminologique pénal actuel. Je ne suis pas un grand criminologue, mais il a pensé le droit pénal avec une netteté absolue.
Mais finalement, André Damien, cette philosophie du secret, elle existe toujours aujourd'hui ?
Dans son principe,
même si
oui.
Elle s'est émoussée.
Mais elle s'est émoussée, mais dans son principe, elle existe. L'ordre public, la société, l'intérêt de la société tout entière veut que Des choses demeurent secrètes lorsqu'elles ont été confiées à des personnes dont le ministère paraît nécessaire et indispensable pour le bonheur de la société. Alors nous verrons là-dedans tout à l'heure, si on a le temps, que ça ne porte pas tout le temps et que notamment les journalistes ne sont pas du tout astreints au secret. Le secret du journaliste n'est pas un secret de ce qu'on lui confie, c'est un secret de ses sources. Ça n'a rien à voir.
Ça le protège lui.
Ça le protège lui, exactement. Et je n'ai pas dit que ce n'était pas d'ordre public et d'intérêt général, mais ça n'a rien à voir avec le secret confié, puisque ce que vous confiez au journaliste, c'est pour qu'il répète. Donc, tandis que ce que vous confiez à un médecin ou à un avocat, c'est pour qu'il le conserve. Donc c'est tout à fait différent.
L'avocat va peut-être plus l'exploiter.
Alors l'avocat a un rôle tout à fait à part, nous y reviendrons.
Absolument. Je vous propose, André Damien, de marquer une première pause dans Éclairage. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui nous sert de base de conversation pour cette émission, Le secret nécessaire, publié chez Desclés de Brouwer. À tout de suite.
Canal Académie.
Le secret nécessaire, livre publié par André Damien aux éditions Desclés de Brouwer. André Damien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui est l'invité d'éclairage aujourd'hui. Alors, monsieur Damien, la problématique, nous parlions tout à l'heure du médecin, la problématique est tout autre hein, pour le secret de confession. Là encore, si l'on fait un petit peu d'histoire, le secret de confession est réglementé pour la première fois par le Concile de Latran au XIIIe siècle.
Oui, mais ce qui est important de dire, c'est que le Concile de Latran, le quatrième Concile de Latran, qui crée le canon, qui deviendra 899 de l'ancien Code de droit canon, n'institue pas, il constate et il respecte. Donc le secret de la confession remonte aux origines même de l'Église, mais le Concile de Latran renforce les peines qui frapperaient celui qui le violerait, ou ceux qui tenteraient de le faire violer par le confesseur. Donc c'est un secret qui remonte au 4e, 5e siècle et qui est lié à la confession auriculaire.
Alors il y a les deux conceptions que vous développez bien dans votre ouvrage, le fort externe et le fort interne. Est-ce qu'on peut s'arrêter quelques instants sur ce fort externe et ce fort interne ?
Alors le fort interne, c'est le fort de la conscience. C'est ce que j'ai commis, c'est ce que j'ai fait, qui n'est su de personne et qui est un rapport direct entre Dieu, l'Église qui en est l'intermédiaire nécessaire et moi-même. Le fort externe, c'est le fort du public. C'est le mariage, c'est des institutions semblables qui sont donc des institutions juridiquement respectées et créées et encouragées par l'Église. Alors on arrive par exemple à des choses curieuses. Imaginez un ménage qui s'est marié religieusement et d'une manière valide. Et brusquement, un des époux recourt à des manœuvres avec des faux témoignages pour faire dire qu'au moment où il s'est marié, il n'avait pas l'intention de le faire. Et l'officialité tombe dans le coup, dans le piège, et annule ce mariage. Eh bien, au fort externe, il est parfaitement annulé, les époux sont libres, ils peuvent se remarier, mais au fort interne, c'est-à-dire au fort de Dieu, ils restent unis jusqu'à la mort. Donc on a cette distinction entre l'interne et l'externe. L'interne étant évidemment le plus rare, le plus précieux et le plus intime.
L'Église étant éternelle, ces deux notions existent encore aujourd'hui, sont
toujours
encore présentes.
Toujours.
Et même dans l'esprit du catholique aujourd'hui ?
Et même dans l'esprit du catholique aujourd'hui, qui, à mon avis, respecte trop cette distinction pour tenter. Moi, je me souviens du cas d'une cliente à qui on avait proposé de divorcer, entre guillemets, devant l'Église par ce moyen truqué. Et je lui ai expliqué la situation et elle m'a dit « Je préfère être pécheresse que de régulariser ma situation à ce prix. » Et tout est rentré dans l'ordre ainsi, c'est-à-dire qu'elle a été dans la rectitude de sa conscience et non pas dans une conscience déviée par des principes mondains et semblables.
Quelle est, André Damien, la notion juridique du secret de confession pour un prêtre ? Quelles sont ses limites à ce prêtre ?
Alors, le secret de la confession concerne tout ce qui est confié au prêtre dans le cadre de la confession auriculaire, c'est-à-dire du sacrement. Mais pour autant, il est plus vaste, car on s'est aperçu peu à peu que la confession ne commençait pas simplement à la bénédiction du patient, à la bénédiction du fidèle.
Lapsus révélateur, quelque
part. Pour l'aider à avouer ses fautes et à la formule finale, qui est l'absolution, il y avait souvent des choses qui précédaient. Et certains ministres du culte, même non catholiques, bénéficient d'une confidence qui est un peu d'ordre cultuel. C'est ainsi qu'on a admis qu'un pasteur protestant qui avait reçu certaines révélations de fidèles était tenu au secret professionnel comme un prêtre catholique. En d'autres termes, le secret de la confession est le point le plus visible, le plus net, le plus aigu du secret. Mais il y a toute une aura dans laquelle on peut en reparler, on peut en parler avant, on peut faire de la direction spirituelle qui n'est pas nécessairement liée à l'accusation d'une faute. En d'autres termes, entre le Domine sit in labis tuis, qui commence la confession, et je vous cite la citation, utrite confiteris omnia peccata tua, il y a effectivement la place pour un certain nombre de conversations qui sont considérées par la jurisprudence comme couvertes par le secret de la confession. Mais le secret de la confession, c'est essentiellement l'accusation de faute en vue de leur absolution.
En tout cas, il faut à la base l'esprit de contrition pour le pénitent.
Il faut à la base, c'est pas nécessairement, c'est la contrition, oui, mais la contrition n'est pas parfaite, obligatoirement. La contrition imparfaite, c'est-à-dire celle qui consiste à regretter ses fautes parce qu'elle risquerait de vous faire perdre le bonheur éternel et pas les regretter parce qu'elle contriste Dieu, votre Créateur, qui vous a lu semblable à son image. La contrition imparfaite suffit amplement. Vous voyez, confession. Mais même, on peut aller plus loin. La confession, pour se libérer le cœur de quelque chose qui pèse, est tout à fait une véritable confession. Et les histoires ne manquent pas de prêtres qui ont reçu de la confession pour les empêcher de parler. Et alors, les canonistes qui sont, et les moralistes qui sont des gens riches d'esprit, se posent la question du secret de la confession. C'est ainsi que le prêtre qui apprend que pour le tuer, on vient de lui mettre des poisons dans les burettes. Au moment où il dit sa messe, que peut-il faire sans trahir le secret de la confession ? Ah, grave problème, des problèmes un peu littéraires, un peu roman policier, mais
il ne peut pas changer de burette, il ne peut pas changer.
Eh bien, on lui conseillera pas de le faire parce qu'il risquerait de montrer, de révéler. Mais si par maladresse il en fait tomber une, il est sauvé. Donc, en d'autres termes, les casuistes ne manquent pas de richesse là-dessus. Alors, il y a eu des martyrs de la confession. Saint Jean Nepomucène, c'est pas certain. N'est-ce pas, on dit que le roi Venceslas voulait qu'il lui avoue les péchés de sa femme. Bon, c'est pas absolument sûr. Il semble qu'il y ait une affaire politique et qu'il soit retrouvé dans le fleuve qui passe par Prague pour d'autres raisons. Mais vous avez quand même des martyrs connus du secret et de la confession et qui sont considérés, notamment un Anglais qui a été décapité. Alors, vous avez les habiles. Henri IV disait au père Coton, son confesseur, « Si vous appreniez que quelqu'un va me tuer, est-ce que vous vous tairiez ?» Et père Coton lui a dit, « Sire, aucun problème, je me mettrai entre le couteau et vous et je prendrai la lame à votre place. » Réponse habile, réponse qui élude un peu le problème.
Est-ce qu'il y a, André Damien, des cas avérés de collusion, entre guillemets, de collaboration, pourrait-on dire, entre prêtres et justice ?
On n'en connaît pas, et avec notre presse à scandale aujourd'hui.
Sur le secret de confession,
oui,
j'entends.
Autant on en connaît chez les avocats, et je vous en parlerai tout à l'heure, autant dans le clergé, on ne connaît pas de cas avérés de dénonciation d'une personne qui a fait une confession. On n'en connaît pas, on n'en cite pas, et si la presse à scandale n'en cite pas, c'est sans doute qu'il n'y en a pas. Parce que tous les autres péchés ont été attribués à juste titre ou à tort à tel prêtre, tels évêques, etc. Là, on a le silence absolu, donc s'il semble bien qu'il n'y ait rien. Le secret de la confession était respecté religieusement dans une société de chrétienté. La meilleure preuve, c'est que par exemple, quand on trouve chez la Brinvilliers une lettre écrite « lettre de confession », qui n'était qu'un aveu partiel, eh bien, le Parlement estime qu'il ne peut pas l'ouvrir. Car il y a le mot « confession » qui prime tout, alors que nous sommes dans une affaire qui dépend de la chambre ardente et qui est quand même une affaire extrêmement particulière, puisque c'est l'empoisonnement du roi qui est en cause, les procès de la voisin, etc. C'est l'affaire du siècle. Eh bien, on respecte donc là le secret de la confession. Et aujourd'hui, il est toujours respecté. On a deux cas récents qui m'ont un peu agacé, mais qui sont quand même dans la bonne tradition classique.
On peut les citer ?
Oui, c'est l'affaire de Monsieur Piquant, évêque de Caen, non pas de Caen, c'est d'Avranches, qui a été condamné pour n'avoir pas révélé les confidences qu'il aurait eues au moment où un prêtre, l'abbé Bisset, a été poursuivi et condamné pour pédophilie. Alors, le jugement est à mon avis réprochable. Le jugement de Caen reconnaît d'abord que professionnellement, l'évêque est astreint au secret. Donc, de ce côté-là, on est tout à fait satisfait. Mais il estime que dans les circonstances de l'espèce, le prêtre n'était pas protégé par le secret, car il n'a pas appris la chose de l'abbé Bisset lui-même, qui venait solliciter une absolution à laquelle il avait droit s'il en avait un repentir normal, ou qu'il pouvait être soumis à des conditions par l'évêque. L'évêque ne l'a pas confessé, il a appris par une dénonciation la chose. Et l'ayant appris par une dénonciation, il est évident qu'il n'était pas protégé par le secret de la confession. Donc je pense que, alors, certains avocats qui avaient défendu la thèse contraire et qui sont un peu intégristes ou intégraux ou intégrales à mes yeux, ont critiqué ma position qui est parue dans la Gazette du Palais du 28 novembre 2001, dans lequel je dis que le tribunal de Caen n'a commis aucune erreur en faisant ce qu'il avait fait et donc en condamnant. Ce que j'ai moins aimé, c'est qu'il condamne à de la prison avec sursis, alors que compte tenu des circonstances, je pense qu'une amende aurait amplement suffi. C'était la décision qui était intéressante, c'était pas le quantum de la peine.
Vous écoutez Canal Académie, nous parlons du secret, le secret professionnel à travers le livre d'André Damien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. André Damien qui est notre invité, l'invité de l'émission Éclairage aujourd'hui, le secret nécessaire publié chez Desclés de Brouwer. Une nouvelle pause dans cette émission, nous nous retrouvons dans un tout petit instant.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de l'histoire. Leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Radio-Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Radio-Canal Académie.
Dans Éclairage sur Canal Académie, nous parlons actuellement du secret, le secret professionnel à travers un ouvrage, Le secret nécessaire, écrit par André Damien, publié chez Desclés de Brouwer. André Damien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui est notre invité aujourd'hui. Alors, monsieur Damien, troisième type, je dirais, de secret professionnel, l'avocat. Alors là, c'est le plus récent.
Alors, c'est le plus récent sur le plan historique. On l'a emprunté aux prêtres. Et c'est le plus complexe sur le plan de son existence et de son exercice. On l'a emprunté aux prêtres parce que les premiers avocats étaient des clercs. Ils en ont d'ailleurs gardé le costume. Les prêtres ont abandonné la toge et la soutane depuis longtemps. Mais nous, nous l'avons gardé. Je dis nous parce que j'ai toujours été avocat et que je le reste par beaucoup de fibres de ma pensée, de mon corps. Donc nous avons gardé le costume ecclésiastique, mais nous avons profité du statut des clercs pour bénéficier d'un certain nombre de leurs privilèges. C'est pas facile dans une société brutale d'être avocat, car on s'expose à ce que les grands et les puissants vous mettent en pièces parce que vous les gênez. Donc on a happé les privilèges ecclésiastiques, notamment le privilège du canon qui dit que toute personne qui frappe un ecclésiastique est excommunié de plein droit. Or, à l'époque, l'excommunication, c'était pratiquement la mort civile, plus droit au pain, au feu, c'était fini. Bon, donc, les gens ont été obligés de respecter les avocats sous peine d'avoir des ennuis. Et le secret professionnel de l'avocat, le secret de ce qui lui est confié, est rigoureux et absolu. Mais la particularité de ce secret, c'est qu'il est très différent de tous les autres dans son exercice.
Alors, entrons un petit peu dans le détail. Oui.
Quand vous recevez un client, vous lui demandez de raconter sa vie. Parce que comment voulez-vous défendre quelqu'un dans un divorce, dans un outrage public à la pudeur ou dans un cambriolage s'il ne vous raconte pas tout ? Et vous racontant sa vie, votre travail va consister de la répéter aux autres.
À exploiter ce secret.
À exploiter tout ce qui vous a livré pour obtenir les larmes des juges, leur rire absolutoire parfois, ou pour en tout cas expliquer ce qui s'est passé. Donc, le client se confie à vous et vous, vous réutilisez ses confidences pour les donner au juge.
Alors, ce n'est plus un secret, André Damien.
Alors, c'est un secret sous deux conditions. D'abord, si le client vous dit quelque chose en vous demandant le secret, il est absolu, vous n'avez pas le droit, sous peine d'une violation du secret, de le dire. Deuxièmement, il y a ce que vous désirez garder secret vous-même. Et il est évident qu'à partir du moment où vous voulez conserver un certain nombre d'éléments, ben vous les conservez. Si vous voulez expliquer que votre client a eu la surprise un jour d'enfant, si vous êtes un peu psychanalytique ou de l'école psychanalytique, de voir qu'il a vu sa mère en train de faire l'amour avec un amant de passage, etc. Vous avez le droit de le dire. Parce que ça explique, peut-être, les gestes du client. Mais s'il vous a interdit de le dire, ou si vous avez décidé de ne pas le dire, personne ne pourra vous faire avouer ce qu'il vous a dit. Vous avez un secret absolu. Alors ce secret, qui est difficile à manier, est dans l'ensemble parfaitement respecté. On a eu un martyr sous l'occupation, c'est Bête Piton, qui a été arrêté par les Albans, qui lui ont demandé de dire ce que lui avaient dit ses clients. Il n'a pas dit et il est mort, ou en déportation, ou fusillé, mais de toute façon, il est mort de ça. Et donc, c'est un cas assez typique de la permanence du secret professionnel. Alors, la difficulté du secret professionnel, c'est ça.
Pour l'avocat,
c'est sa comparaison avec l'obligation de dénoncer. Car l'avocat recevant un certain nombre de confidences peut recevoir des choses qu'un homme normal serait obligé de dénoncer.
Genre criminel.
Un criminel qui lui dit « Alors, la petite vieille, c'est pas moi, je suis totalement innocent, maître, et c'est vrai, par hypothèse. En revanche, l'autre petite vieille, alors là, c'est bien moi, et ça, je le nie, mais je vous le dis à vous pour que vous voyez bien le profil. » Alors, que fait l'avocat ? Alors, d'abord, il va le défendre, puisque ce deuxième cas, c'est pas lui. Il lui a dit, il va essayer de le démontrer. Mais le premier cas, que le monsieur n'avoue pas, ben il va être obligé de le garder totalement secret. Or, tout être individu qui entend, enfin, qui reçoit la dénonciation d'un crime, est obligé d'aller le dénoncer à la justice.
Y compris l'avocat.
Y compris l'avocat. Alors, il y a tempête sous un crâne, que faire entre ces deux devoirs ? Alors, un des grands déontologues, trop long, sachant pas trop que faire, avait consulté un prêtre mondain de l'époque qui était l'abbé Coquereau, qui était l'aumônier de la Belle Poule, celui qui était allé chercher les cendres de Napoléon à Sainte-Hélène. Et ce prêtre mondain, mais qui n'empêchait pas d'avoir du bon sens et une saine théologie, a dit « Le devoir de secret prime le devoir de dénoncer », ce qui est audacieux et pas totalement évident, car il y a un choix à faire entre l'intérêt privé et l'intérêt public. N'est-ce pas ? Qu'est-ce qui va primer ? Pourquoi dire que c'est l'intérêt privé qui prime ? À mon avis, pour une raison très simple, que nous donne Garçon dans sa définition admirable du secret, c'est que l'ordre public et le bienfait de la société veulent que le criminel trouve quelqu'un et puisse se confier en toute confiance. C'est plus important que la dénonciation de quelqu'un. Donc, c'est la position qui n'a jamais varié dans la justice. Alors, où les difficultés commencent, c'est quand on va condamner un innocent et que l'avocat le sait. Il sait que c'est un innocent puisque c'est un autre qui a commis le crime. Lui sait que c'est pas du tout ce monsieur, mais que c'est son client qui lui a confié sous le sceau du secret.
Cas de conscience.
Alors, la plupart des auteurs disent qu'il doit se taire. Florio, dans le beau livre qu'il a écrit sur le secret avec Combaldieu, dit ça serait horrible de penser qu'il garde enfoui un secret semblable, etc., etc. En fait, le cas s'est pratiquement jamais posé, mais les Belges, qui sont plus inventifs que nous, ont une jurisprudence que j'ai trouvée intéressante et qui donne la chose. C'est le cas d'un avocat qui défend un monsieur pour obtenir le maintien de la garde de son enfant à sa garde. Et l'affaire est discutée devant le tribunal, et le monsieur lui dit « Si jamais je n'avais pas cet enfant et que ma femme s'en empare, juridiquement, je n'hésiterai pas à le tuer avant et à me détruire ensuite. » L'avocat plaide, et la sentence est mise en délibéré, et c'est la femme qui gagne. Elle a l'enfant. Elle va l'avoir. Alors, que va-t-il se passer ? Eh bien, connaissant l'excitation de son client, l'avocat le dénonce à la police. Et il a bien fait sur le plan d'efficacité, puisque on a fait sauter la porte, et l'enfant avait déjà absorbé un breuvage mortel que lui avait imposé son père, mais on a pu le sauver à temps, et tout s'est bien terminé. Mais le client, l'assassin potentiel, le monsieur qui ne voulait pas lâcher son enfant à sa femme, a porté plainte contre l'avocat en violation du secret professionnel. Mmh. Alors, qu'a fait la cour d'appel de Liège, je crois, qui a été saisie de l'affaire? Elle a pris une décision pleine de sagesse, mais sur le plan des principes qui ne nous apprend rien. Elle a invoqué l'article 64 du Code pénal. Nul n'est coupable s'il a agi sous la contrainte d'une force à laquelle il n'a pu résister. C'est l'exception necessitatis. Et il est évident que cette tempête sous un crâne qui frappait l'avocat à ce moment-là était telle qu'il n'a pas pu résister à cette pression. Et donc il est allé presque automatiquement, comme si vous alliez avec un revolver braqué dans le dos. Et à ce moment-là, il n'est pas coupable. C'est très satisfaisant sur le plan de la paix publique et de l'équité. Est-ce satisfaisant sur le plan des principes? J'en sais rien.
André Damien, qu'en est-il justement dans le cas d'un avocat cité comme témoin?
Alors, l'avocat cité comme témoin n'a pas le droit de révéler quoi que ce soit de ce qui lui a été confié par le client. Et il peut très bien avoir de gros ennuis, car les tribunaux aiment de moins en moins ce genre d'attitude. Autrefois, on admettait très bien que l'avocat avait sa déontologie propre. Aujourd'hui, on estime que c'est du blanchiment d'argent, c'est de la complicité, c'est des choses abominables, et on essaye de mettre l'avocat à cuillat pour le forcer à parler, mais il doit résister parce qu'il y a des principes qui sont au-dessus de ces pressions momentanées, actuelles, très localisées dans le temps et dans l'espace que les magistrats font subir à certains avocats.
On voit vraiment la complexité de cette problématique du secret professionnel pour l'avocat, plus d'ailleurs peut-être que pour les prêtres et pour les médecins, non ?
Pour le prêtre, il ne doit rien dire. Et pour le médecin, il ne doit rien dire, sauf quand c'est dans la loi, et là, il doit tout dire. Alors, c'est tout, j'exagère pour faire voir mon propos. En d'autres termes, tout est clair. Le médecin, il dénonce toutes les maladies contagieuses. Alors oui, il reprend son secret, c'est pour les balles qu'il peut avoir vues extraites d'un bonhomme qui a dû le voir. Le prêtre, il ne doit rien dire du tout. Et l'avocat, il doit dire un certain nombre de choses, mais elles ne sont pas définies avec une absolue netteté.
Le plus tranquille, finalement, c'est le prêtre.
Ah oui, secret absolu, définitif, permanent, excommunication majeure, réservé au Saint-Siège s'il a trahi le secret de la confession. Donc on est tranquille, rien ne peut, il a qu'à devenir martyr, et à ce moment-là, il montera sur les autels, et surtout que c'est assez facile actuellement, et il aura donc, à mon avis, un culte comme martyr de la confession.
André Damien est l'invité de l'émission Éclairage sur Canal Académie, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. André Damien publie chez Desclées de Brouwer « Le secret nécessaire ». Donc nous parlons aujourd'hui du secret professionnel. Revenons, si vous le voulez bien, monsieur Damien, à la problématique judiciaire, le secret et l'avocat. Je vous cite page 50. « L'obligation du secret qui pèse sur l'avocat est donc absolue. L'intention de nuire n'est pas la condition du délit de violation du secret professionnel. La simple imprudence, le bavardage excessif ou même la volonté de contribuer à la vérité historique constitue une violation du secret. » C'est un propos qui est pour le moins d'actualité, non ?
Il l'a été, il peut l'être encore récemment, puisque vous savez que, bon, il a été, c'est dans le procès du maréchal Pétain, un des jurés, 10 ans après, a révélé le secret des délibérés et a dit il a été condamné à une voix de majorité, oui, etc., etc. Et je pense que c'était vrai ce qu'a dit ce juré, qui était un juré parlementaire. Il a été condamné à une amende, mais le principe était resté que le secret des délibérés est absolu. Alors, vous me direz, quel rapport avec l'avocat ? Mais c'est que l'avocat, son secret est permanent, perpétuel. Il ne peut pas révéler ce qu'il a su, même une fois que le temps est passé. Alors, je pense que ce secret, ce secret de l'avocat est absolu. Il n'y a pas de sanction qui puisse le mettre en cause. Et relevé du secret professionnel par son client, il peut refuser de déclarer ce qu'il sait. Il n'a d'autres lignes à suivre que sa conscience. Le résultat, néanmoins, est que dans un certain nombre d'affaires, les juges sont très curieux et que l'avocat est assez embarrassé, notamment dans les affaires financières.
Politiques.
Dans les affaires politiques et financières. À une époque où les juges d'instruction passent leur temps, certains d'entre eux tout au moins, à donner à la presse, notamment à un grand quotidien qui paraît tous les soirs en France, paraît-il, les procès-verbaux avant même qu'il ait été dicté ou enregistré, il est évident que l'avocat se trouve dans une situation un peu difficile et qu'il est facile au juge qui a trahi les devoirs de sa charge en donnant les PV et des indications de dire « Oh, mais c'est l'avocat ou du client ou de la partie civile. » Car comme les avocats ont des intérêts contradictoires dans l'affaire, il y en a toujours un qui peut être intéressé à la divulgation de ce qui s'est passé. Donc, on dit c'est l'avocat qui a trahi. En réalité, on ne l'a jamais prouvé. Si, j'ai connu un cas où on a prouvé que c'est l'avocat qui avait donné un certain nombre de tuyaux à la presse. C'est, il y a longtemps, c'était dans l'affaire Peugeot. Mais c'est extrêmement rare. Mais il est évident qu'à une époque où le juge d'instruction est le premier fournisseur d'informations aux chaînes de télévision et à la presse, l'avocat se sent peu à l'aise et aurait tendance, s'il suivait son instinct, à dire « Oh ben moi aussi, je dis ». Il est évident qu'il doit garder le secret. Il peut néanmoins, avec l'autorisation du bâtonnier, nous dit-on, enfin, c'est souvent difficile de la demander à l'instant, mais il peut faire une déclaration rétablissant un certain nombre de points sur ce qui a été dit par le parquet, qui a le droit de faire des déclarations, lui, ou par la presse, en disant non, mon client n'a jamais dit ça, ni n'a fait ça. Je pense que là, c'est le secret d'instruction qui est violé, c'est pas le secret confié, le secret nécessaire à l'avocat pour exercer son métier.
Alors, vous n'hésitez pas à parler dans votre livre, André Damien, de décadence du secret professionnel. Mm-hmm. On en est là aujourd'hui.
Oui.
La décadence.
Parce que le secret médical, je vous l'ai démontré, est en pleine décadence, puisque pratiquement, à part les affaires de coups et blessures par balles que le médecin est obligé de garder, par encore qu'il soit obligé de dénoncer d'ailleurs, enfin, il le fait ou il ne le fait pas, toutes les autres maladies sont soumises à dénonciation. Même les maladies vénériennes, si le malade ne consent pas à suivre un traitement. Deuxièmement, le secret de la confession a moins d'importance puisque les gens ne se confessent plus, étant donné qu'ils n'ont plus le sentiment de la faute et de l'absolution nécessaire pour retrouver la paix de la conscience et pour se réconcilier avec Dieu, qu'ils ont offensé par leur péché. Donc le secret de la confession, qui existe toujours et sacré, est quand même en voie d'extinction, si je puis dire, dans sa pratique quotidienne. Quant au secret de l'avocat, ben lui, il est évident qu'il est totalement limé par les confidences même que sortent les juges d'instruction, pas les greffiers. Souvent on dit c'est les greffiers. Les greffiers sont d'honnêtes gens qui ne donnent jamais de renseignements et qui sont tenus à une prudence qu'ils gardent. Les avocats parlent beaucoup, c'est vrai. Mais en réalité, c'est le secret de l'instruction qui trahissent la plupart du temps. Ce n'est pas le secret qui leur a été confié. Ce n'est pas le secret des accusations, des dénonciations qui leur ont été faites.
C'est l'affaire.
C'est l'affaire. Et ils parlent de l'affaire pour défendre le client et pour le défendre contre ces moyens qui sont mis en œuvre. Ce qui fait que je pense que le secret est aujourd'hui malade. Et je suis malade de cet état, car le secret est à mes yeux un moyen de contrôler l'évolution d'une société, où la société est un monde totalitaire et le secret n'existe pas, car il importe que le corps social connaisse tout. Il n'y a pas de secret devant un régime totalitaire. C'est inadmissible. Ou bien notre société est encore libérale et le secret y est fondamental. Or, c'est un curseur sur une ligne, le secret, et la jurisprudence, ou l'état avec lequel il est reçu. Aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est que la jurisprudence n'est pas favorable aux détenteurs du secret. L'affaire Piquant, l'affaire de l'officialité de Lyon, sont des affaires mauvaises sur le secret, dans lequel ça a été jugé avec un certain laxisme. Deuxièmement, l'opinion n'est pas en faveur du secret. Et l'opinion dit, mais enfin, c'est pas pensable que cet avocat qui sait la vérité ne la dise pas. L'opinion est hostile, ou que ce médecin qui sait que la peste aviaire est en train de passer dans tel machin ne dise pas tout ce qu'il sait.
Le secret cache des choses automatiquement, voilà. En politique, voilà. En économie, voilà. partout.
Et dans la mesure
l'opinion publique n'adhère pas.
Et l'opinion publique ne veut plus ces zones secrètes, à tort d'ailleurs, parce que elle est en trop grand progrès sur son temps, dans une méfiance de tout le monde. Et donc, elle pense que le secret dont nous nous prévalons, ce sont des coquetteries de vieillards ou de jeunes abrutis. D'ailleurs, il n'y a pas que les vieillards, pour être idiot, de personnes qui vivent dans une tradition antique. Et qu'en réalité, la société moderne, à l'époque de l'Internet, du machin, du truc, du chose, du téléphone portable, n'a plus rien à faire de ces coquetteries d'autrefois.
En tout cas, André Damien, il y a vraiment du grain à moudre pour les sociologues.
Ah oui, c'est extraordinaire parce que...
Le secret professionnel est vraiment le baromètre d'une société.
Exactement, moi je suis persuadé que oui, n'est-ce pas ? Prenez l'évolution de la natalité, de la sexualité, etc. Ce sont des indications. On s'aperçoit que le XVIIIe siècle, c'est Chaunu qui le montre, est beaucoup moins pieux, est beaucoup moins pieux qu'on le croit, car c'est là qu'on a la rupture de natalité. C'est-à-dire que la contraception apparaît d'une manière massive et que les interdits de l'Église, c'est-à-dire moraux, et les sciences des hommes suffisent à mettre cette natalité euphorique en panne. Dans le même sens, nous avons effectivement une décadence du secret professionnel qui montre bien l'évolution de nos sociétés. Le péché en lui-même n'existe plus. Il a été évacué. D'ailleurs...
Le diable n'existe plus.
Le diable n'existe plus. La nature n'existe plus. Autrefois, on disait, c'était dans le code, que le mariage était l'union d'un homme et d'une femme. Alors le code de droit canon disait en vue de la procréation, le code civil ne le disait pas, mais il ne l'interdisait pas. Aujourd'hui, vous avez 50% de naissances illégitimes en France. C'est hallucinant ce chiffre qui a été donné par l'INSEE récemment. Ce qui prouve bien que notre société s'effondre dans ses bases classiques et morales. Alors là, je fais peut-être vieux père lacolique en disant des choses semblables, mais je suis sûr qu'il y a quand même un phénomène, que ce phénomène se traduit dans notre société et qu'une des clés, c'est l'évolution du secret professionnel. Cette notion de secret, doit-on faire passer tout au crible de l'opinion des journalistes et de tout, ou au contraire, faire le tri et ainsi respecter ce qui est véritablement secret. Je rappelle que les journalistes ne sont pas tenus au secret, mais au secret des sources. Ce secret des sources n'est pas reconnu par le législateur, ils se font condamner, ce sont des martyrs, et ils sont heureux, et ils parlent avec leur couronne de martyrs pour affronter les médias qui les acclament.
À bien vous entendre, André Damien, on peut dire que le rapport que nous entretenons avec le secret est vraiment le reflet de la condition humaine. Est-ce qu'il y a aujourd'hui nécessité vraiment d'aller plus avant, de créer, pourquoi pas, une nouvelle conception, une nouvelle notion du secret professionnel ?
Alors, je ne crois pas, parce que je crois que notre notion dans les principes est parfaite, absolue, adaptable, adaptée, elle est souple. Et deuxièmement, il ne faut surtout pas créer de commission. On a créé la commission Stasi, on vient de créer une commission maintenant sur le racisme. Arrêtons les commissions si on peut et si on pouvait. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé, que le Conseil d'État a été chargé d'une enquête sur le secret. Ils m'ont consulté à l'époque, je n'étais pas au Conseil, et ils m'ont suivi, à savoir qu'ils ont rappelé que le secret était d'ordre public et qu'il valait mieux pas toucher les textes. Et c'est pourquoi nous vivons sur les textes anciens, qui ont changé de numéro, mais qui n'ont pas changé de structure.
Peut-on imaginer un jour, peut-on envisager une conception universelle du secret professionnel ? Car aujourd'hui, enfin depuis le début de cette émission, nous parlons de la conception française. Est-ce qu'il peut y avoir à terme, un jour, une conception européenne défendue au plan international ?
Alors on trouve cela, effectivement, dans la Déclaration européenne des droits de l'homme. Dans la Déclaration universelle, le secret a sa place. Alors, est-ce que c'est exactement la place que, dans l'article 226.13, dans sa jurisprudence et dans sa doctrine qu'il interprète, c'est pas absolu, mais vous avez quand même un grand respect de la notion de secret dans les pays civilisés. Dans les pays civilisés et donc libéraux, dans les pays actuellement dictatoriaux ou anarchiques, je pense que le secret est une notion extrêmement faible. Quel est le secret à Haïti ? J'en sais rien pour l'instant. Quel est le secret en Corée du Nord ? Il doit être assez limité que je sache, même si des textes hypocrites l'affirmaient en principe. Mais je pense que le secret a fait de grands progrès grâce aux institutions internationales et que c'est une institution en euphorie qui est une fondation de l'Église. De la chrétienté. C'est eux qui l'ont fondé après les Grecs, hein, et le secret médical. Mais le secret appliqué en dehors de la médecine, c'est une fondation de l'Église qui l'a apporté au monde civilisé. Et c'est en ça que j'aime me dire que l'Église est un peu mère de notre Europe, car elle a apporté des éléments fondamentaux à l'Europe. Cela dit, la laïcité l'a apporté aussi. Beaucoup de respect. Le code pénal de 1810 n'est pas du tout un code religieux, puisqu'il ne mentionne même pas le secret du prêtre. Il mentionne les médecins et les sages-femmes. Mais la jurisprudence a toujours estimé que ça allait de soi. Et par voie de conséquence, la jurisprudence et la doctrine, et notamment Émile Garçon, dans son admirable code pénal annoté, ont repris les mêmes principes dont nous étions bénéficiaires.
André Damien, peut-on dire en conclusion que si on laisse faire en matière de secret individuel, en matière de secret professionnel, il y va de l'homme ?
Ah oui, tout à fait. Je pense que c'est un certain nombre de libertés fondamentales, comme la liberté de croire ou de ne pas croire, et qui sont absolues. La Cour internationale des droits de l'homme arrive de temps en temps à le rappeler, et si nous laissons s'amputer le secret professionnel, ce serait une perte pour ce qu'il y a de riche dans notre humanité.
Merci beaucoup pour votre témoignage, monsieur André Damien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, auteur, je rappelle, de ce livre publié chez Desclés de Brouwer, Le secret nécessaire. Merci monsieur, à très bientôt.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.
Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie se penche sur la construction européenne. Les frontières de l'Europe d'un point de vue historique, l'Europe vue du monde arabo-musulman, l'Europe médiévale, l'Europe et les femmes. Radio Canal Académie vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance. Plusieurs fois par jour, retrouvez l'intégralité des séances de l'Académie des sciences morales et politiques en écoutant Radio Canal Académie.